ou à Afrique ?
Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir Nathalie Barge pour cette édition du 18 juillet 2018. 60 suspects arrêtés dans une opération antiterroriste dans le nord du Burkina Faso. La cour d'appel de Dakar a rejeté la demande de remise en liberté du maire Khalifa Sall. L'Afrique du Sud célèbre le Mandela Day en hommage à l'icône de la lutte contre l'apartheid.
Mandela représente véritablement un monument, un repère et une chance pour les jeunes de savoir s'investir, se sacrifier.
Donald Trump qualifie de succès sa rencontre avec Vladimir Poutine après être revenu sur ses propos controversés. Et après le journal L'économie et les sports avec la défaite de l'AS Vita Club en Coupe de la Confédération. Le maire de Dakar reste en prison malgré l'arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO. Le juge Demba Kandji, premier président de la Cour d'appel de Dakar, a décidé de rejeter la demande de liberté d'office pour Khalifa Sall et ses co-détenus. Selon le juge, la Cour communautaire ouest-africaine n'est pas une cour fédérale. C'est Dina Abagay, correspondant de VOA Afrique au Sénégal.
Condamné à 5 ans ferme, le maire de Dakar reste donc en prison en attendant l'issue de son procès en appel. La cour d'appel de Dakar a rejeté la demande de liberté d'office de Khalifa Sall et la nullité de la procédure pour détention arbitraire. Le premier président de la cour d'appel considère que la cour de justice de la CEDEAO n'est pas une cour suprême fédérale au-dessus des juridictions nationales et ses décisions n'ont pas d'impact sur les décisions des tribunaux des États membres. Il a ainsi débouté la défense et ordonné la poursuite du procès en appel du maire de Dakar et de ses co-détenus. Cette décision du tribunal intervient au lendemain de la volte-face spectaculaire du procureur général. Ce dernier avait plaidé pour la libération du maire de Dakar avant de se rétracter à travers une demande écrite adressée au premier président de la cour d'appel. À l'annonce du verdict, les partisans de Khalifa Sall ont semé le trouble, obligeant les gendarmes à évacuer la salle d'audience. De leur côté, les avocats du maire de Dakar ont annoncé un pourvoi en cassation pour contester le maintien de leur client en prison. À Dakar, Seydina Abagay pour VOA Afrique.
27 migrants sénégalais sont recherchés dans une zone désertique du nord-ouest de la Mauritanie après avoir fait naufrage sur une plage alors qu'ils tentaient de rallier les Canaries. Selon les autorités mauritaniennes, les 75 autres sénégalais, dont deux femmes, ont été interceptés sur le chemin de Nouadhibou ou près de leur embarcation qui s'est échouée sur les rivages mauritaniens. Après 5 jours en mer, a déclaré lors d'une conférence de presse le directeur régional de la police Mohamed Abdallahi Oul Taleb. Démantèlement de bases de groupes terroristes dans le nord du Burkina Faso. Une 60aine de suspects sont actuellement détenus. Les détails avec Bagassi Koura.
Selon un communiqué de l'état-major des armées, les unités antiterroristes ont interpellé une centaine d'individus suspects, résultat d'une série d'opérations menées depuis le 8 juillet dans le nord du pays, frontalier avec le Mali et le Niger. Après vérification, 60 d'entre eux ont été transférés au service d'investigation de la gendarmerie et les autres ont été relâchés, annonce le dit communiqué. Des explosifs, des produits de contrebande et autres matériels servant à la fabrication d'engins explosifs ont également été saisis lors de ces opérations qui ont nécessité un appui des forces aériennes. L'armée annonce avoir également enregistré 3 blessés qui ont été transférés et pris en charge par les services de santé des armées. Par ailleurs, le chef de la commune de Hokuluru, située dans la même région du nord, a été exécuté à l'entrée de la ville de Baraboulé dans la nuit de mardi à mercredi, selon un communiqué du ministère de la Sécurité. Il avait été enlevé le 7 juillet dernier par un groupe d'hommes armés.
Au Nigeria, 22 djihadistes présumés ont été arrêtés et présentés au public par les forces de l'ordre à Maïdougouri dans l'état de Borno. 8 sont soupçonnés de lien avec l'enlèvement il y a 4 ans de plus de 200 lycéennes à Chibok. Les 14 autres sont soupçonnés d'avoir participé à la préparation d'attentats suicides dans plusieurs villes du nord du pays. Selon la police, ces hommes, tous originaires de la région de Bama, ont été arrêtés début juillet dans les états de Borno et de Yobe. En RDC, au moins 11 personnes sont mortes et 15 autres portées disparues après le naufrage d'une embarcation sur le fleuve Congo. L'embarcation motorisée surchargée a chaviré dans la nuit de lundi à mardi, selon Sabrina Dako, administratrice du territoire de Bassoko dans la province de Tchopo. Cette embarcation, au bord de laquelle voyageaient 98 personnes, naviguait de nuit sans lumière et a heurté une grosse pierre avant de chavirer. À Kinshasa, l'Assemblée nationale et le Sénat congolais sont convoqués en congrès demain pour suivre un message à la nation du président Joseph Kabila selon une décision des deux chambres à 6 jours du dépôt des candidatures à la présidentielle. Il y a une semaine, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, avait indiqué que le président Kabila allait annoncer une série de décisions importantes. Le gouvernement gabonais a instauré un système de bons de caisse pour débusquer les fonctionnaires fictifs. Des bons que les vrais fonctionnaires tentent de récupérer avec difficulté depuis lundi. Des centaines de salariés se sont rendus sur les sites de retrait de ces bons à Libreville. Un site internet a également été mis en place pour pouvoir retirer ces documents qui permettent de toucher son salaire à la banque. L'opération durera jusqu'au 24 juillet, indiqué le Premier ministre Emmanuel Issoze Ngondé. Nous y reviendrons dans les dossiers d'actualité. L'Afrique du Sud a salué ce mercredi l'héritage de Nelson Mandela avec de vibrants hommages de l'ancien archevêque Desmond Tutu et de Barack Obama, l'icône de la lutte contre l'apartheid qui aurait eu 100 ans ce 18 juillet. Chaque année, le Mandela Day, qui coïncide avec la naissance de Madiba dans le village de Mvezo, est célébré dans la nation arc-en-ciel. Agissez, inspirez le changement, faites de chaque jour un jour Mandela, exhorte la fondation qui porte son nom. Pour le centenaire de sa naissance, elle a invité l'ancien président américain Barack Obama.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Donald Trump continue de se défendre après les critiques dont il a fait l'objet depuis le sommet avec Vladimir Poutine. Au lendemain de la rectification de ses propos, le président américain insiste sur la réussite de la rencontre d'Helsinki. Il explique aussi qu'il est le président le plus ferme qui soit avec la Russie. Abdourahmane Dia nous en dit plus.
La rencontre de lundi avec Poutine pourrait, sur le long terme, être couronnée d'un succès encore plus grand que les entretiens avec l'OTAN, qui ont été un triomphe évident, a estimé Donald Trump dans une série de tweets. Il a aussi affirmé que la Russie a accepté d'aider les États-Unis sur la Corée du Nord. Cette déclaration du président américain intervient moins de 24 heures après être revenu sur des propos qui avaient scandalisé la classe politique américaine car il semblait mettre en doute l'ingérence russe dans l'élection américaine de 2016. Lors de sa conférence de presse avec Vladimir Poutine lundi, Donald Trump avait dit n'avoir aucune raison de ne pas croire les dénégations du président russe sur l'ingérence de Moscou dans la présidentielle de 2016, pourtant certifiée par le renseignement américain. Face aux nombreuses critiques venant de tous bords, y compris des républicains, il a dû organiser une mise au point au cours de laquelle il a reconnu s'être mal exprimé. Il a également assuré avoir confiance aux services de renseignement américains.
4 ONG ont appelé ce mercredi les autorités tunisiennes à autoriser l'accostage d'un navire commercial ayant secouru une quarantaine de migrants partis de Libye après un refus de les accueillir à Malte, en Italie et en France, selon elles. Perdus en mer à bord de leur embarcation pneumatique depuis 5 jours, ces migrants originaires d'Afrique subsaharienne et d'Égypte ont été repérés à une date non précisée par le navire Caroline III envoyé par les gardes-côtes maltais. Ce bateau a appelé les gardes-côtes italiens, français et maltais qui ont refusé d'accueillir ces rescapés, prétextant que les ports les plus proches étaient en Tunisie. Le gouvernement allemand veut accélérer les renvois de demandeurs d'asile originaires d'Algérie, du Maroc et de la Tunisie en les inscrivant au même titre que la Géorgie sur la liste des pays sûrs. Le projet de loi a été adopté ce mercredi en Conseil des ministres. Des précisions avec Irénée Humbo.
C'est la deuxième tentative des autorités allemandes après qu'un premier projet de loi a été rejeté l'an dernier par la chambre haute du Parlement, le Bundesrat. Le gouvernement veut inscrire ces trois pays du Maghreb et l'ancienne République soviétique sur la liste des pays dits sûrs, comme c'est déjà le cas pour le pays des Balkans non membre de l'Union européenne. Les services d'immigration allemands pourront alors rejeter quasi automatiquement les demandes d'asile de leurs ressortissants. Berlin justifie cette décision par le fait que les demandes d'asile en provenance de ces pays sont déjà toutes rejetées à plus de 99% pour la Géorgie et l'Algérie. Seuls 2,7% des demandes d'asile de Tunisiens et 4,1% des requêtes de Marocains ont reçu une réponse positive des autorités allemandes, notamment en 2017. Le ministère de l'Intérieur, aux mains du très conservateur bavarois Horst Seehofer, espère que cette mesure permettra une diminution drastique des demandes d'asile émanant de ces quatre pays.
Un tribunal turc a ordonné le maintien en détention préventive du pasteur américain Andrew Brunson, jugé pour terrorisme. La décision a été rendue lors de la troisième audience à Aliaga, dans la province d'Izmir. Le procès a été renvoyé au 12 octobre. Le pasteur est détenu depuis octobre 2016 sous l'accusation d'activités terroristes et d'espionnage. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Raissa Girondin.
Au Cameroun, la crise anglophone a un très mauvais impact sur l'économie de la région du sud-ouest anglophone, épicentre des combats entre l'armée et les séparatistes, selon l'ONG camerounaise Human is Right. Les plantations d'huile de palme de l'entreprise publique Pamol ont été désertées dans le département d'Ndiane et les villages qui produisent le cacao et le café sont tous à l'arrêt parce que les villageois ont abandonné leur culture. Le Fonds monétaire international a relevé légèrement ses prévisions de croissance pour l'Afrique subsaharienne en 2019 à 3,8% contre 3,7% lors de sa précédente estimation datant du mois d'avril dernier. Le relèvement des prévisions de croissance pour 2019 s'explique essentiellement par la hausse des prix des matières premières et l'amélioration des perspectives économiques au Nigeria. La Chine a annoncé être contrainte de prendre des mesures de représailles supplémentaires contre les États-Unis afin de protéger ses droits et intérêts face aux taxes douanières américaines visant l'aluminium et l'acier importés. Christine Lagarde, directrice générale du FMI, a noté que les États-Unis sont les plus exposés aux conséquences de la guerre commerciale qui pourrait coûter des centaines de milliards de dollars au PIB mondial dans les prochaines années.
À présent, les sports avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
Troisième journée de la Coupe CAF, l'AS Vita Club est tombé au Ghana.
Fraîchement sacré champion de la RDC, les hommes de Florent Ibengué ont été surpris 2-1 sur la pelouse d'Adouana Star. Adji à la troisième et Yahya Mohamed, 7 minutes plus tard, ont marqué rapidement pour infliger sa première défaite à Vita Club malgré la réduction du score de Muzenga à la 26e. Dans le groupe C, invaincu jusque-là, Williamsville d'Abidjan n'est pas parvenu à enchaîner. Les Ivoiriens sont tombés 1-0 au Nigeria contre Enyimba. Ibrahim Mustapha a été l'unique buteur de la rencontre.
Marché des transferts, Kazri a rejoint Saint-Étienne et Bissouma Brighton.
Le jeune international malien, 21, a quitté Lille pour le club anglais de Brighton. Yves Bissouma a signé un contrat de 5 ans. Cette opération devrait rapporter environ 20 millions d'euros au LOSC, dont 3 millions de bonus. L'attaquant international tunisien Wabi Kazri, 27 ans, a lui signé pour 4 ans à l'AS Saint-Étienne jusqu'en 2022 donc. La saison dernière, il avait été prêté par Sunderland à Rennes, où il a joué 29 matchs et inscrit 11 buts. Il totalise 40 sélections et vient de disputer le mondial en Russie.
Basket ici en NBA, les Golden State Warriors ont prolongé le contrat de leur entraîneur.
Steve Kerr, l'homme qui a permis à l'équipe californienne, championne en titre, de conquérir 3 sacres en 4 ans, a été prolongé de 4 ans. La durée du nouveau contrat et les émoluments n'ont pas été divulgués, mais selon certaines sources, il ferait de lui l'un des entraîneurs les mieux payés de la NBA.
On termine par du cyclisme avec le coup double pour Geraint Thomas à la 11e étape du Tour de France.
Le Britannique a enlevé l'étape du jour et a revêtu le maillot de leader dans la station alpestre de la Rosière. Thomas s'est imposé en solitaire dans cette première arrivée au sommet avec 20 secondes d'avance sur le Néerlandais Tom Dumoulin et son coéquipier, le Britannique Chris Froome.
Merci beaucoup Yacouba pour cette page sportive.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Nathalie Barge pour vous présenter les dossiers du jour. Fin au Niger d'une visite de 2 jours du président du Parlement européen, Antonio Tajani. La coopération entre le Niger et l'Union européenne, notamment en matière de sécurité et de lutte contre l'immigration irrégulière, était au centre des discussions. Revenons sur cette rencontre avec notre correspondant Abdulrazak Idrissa.
Antonio Tajani a d'abord été reçu par le président Issoufou Mahamadou. Ce dernier, en tant que président en exercice du G5 Sahel, lui a demandé l'appui de son institution pour une meilleure opérationnalisation de la force du G5 Sahel.
L'Union européenne soutient la force conjointe du G5 Sahel qui se bat contre le terrorisme et le crime organisé dans l'espace du G5 Sahel. Et nous avons souhaité que ce soutien se renforce, en particulier au plan diplomatique par rapport à la mise sous chapitre 7 de la Charte des Nations Unies de cette force conjointe et par rapport à la nécessité d'asseoir un financement pérenne afin que cette force puisse continuer à être opérationnelle sur plusieurs années.
Le président du Parlement européen est ensuite allé encourager les parlementaires des 5 pays du G5 Sahel qui ont décidé à Niamey ce lundi de mettre sur pied un organe de contrôle de la gestion de cette organisation. La prochaine étape fut la visite d'une des maisons d'accueil de réfugiés évacués de la Libye, gérée par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Alessandra Morelli, la représentante du HCR au Niger, explique.
C'est ici qui respire pour la première fois la liberté. C'est le premier port sûr d'un voyage que pour plusieurs de gens a duré 1 an. Et c'est un voyage d'esclavage, de violence, d'abus, d'extorsion et de viol. Et donc c'est le premier port qui continuera dans d'autres pays qui vont les accueillir pour reprendre en main leur dignité.
Dans cette maison d'accueil, une 60aine de personnes, des jeunes femmes en majorité de nationalité érythréenne, prises en charge par le HCR avant leur acheminement régulier vers des pays européens qui désirent les accueillir. Une initiative saluée par Antonio Tajani qui estime qu'elle doit être répliquée ailleurs en Afrique.
Si cette initiative, c'est aussi un bon système pour donner un coup aux passeurs, aux trafiquants, parce que si il y a un système légal pour contrôler s'ils ont le droit d'être des réfugiés, et après on peut les envoyer dans les différents pays dans le monde, ils probablement trouvent déjà un travail, c'est la bonne façon pour tuer la stratégie des affaires des passeurs, donc des organisations de trafiquants. Et alors voilà pourquoi l'Europe est en train d'aider ce projet. Le Niger est un bon exemple, mais il faut trouver des options aussi dans les autres pays et avec un dialogue. Je pense que ce sont les pays de l'Afrique subsaharienne.
Abdulrazak Idrissa, Niamey, VOA Afrique.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum ce jeudi, plein feu sur le tête-à-tête inédit lundi dernier entre le président américain Donald Trump et son homologue russe Vladimir Poutine. S'agit-il d'un nouveau chapitre des relations entre Washington et Moscou ?
Les deux dirigeants ont-ils intérêt à s'entendre? Que peut signifier pour le monde, y compris pour l'Afrique, une normalisation des rapports russo-américains? Mais les points de friction comme l'Ukraine, la Syrie et les accusations d'ingérence russe dans la présidentielle américaine sont-ils des obstacles à cet éventuel rapprochement? Nous attendons vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Ne manquez pas Washington Forum, c'est ce jeudi à 19h10.
Le gouvernement gabonais a instauré un système de bons de caisse pour débusquer les fonctionnaires fictifs. Des bons que les salariés de l'État tentent de récupérer depuis 3 jours, non sans difficulté. Cette mesure n'est pas vue d'un très bon œil par certains syndicats. Selon Jean-Olivier Makayakumba, président du groupe de syndicats des professionnels de la communication, joint à Libreville par Eki Abadou.
Si je me réfère à ce qu'a dit le gouvernement, c'est un recensement qui ne dit pas son nom. Selon eux, ils constatent qu'il y a des fonctionnaires d'État qui perçoivent des salaires. De l'autre côté, il y a des personnes qui sont retraitées mais qui continuent à percevoir les salaires. Et en plus, il y a des gens qui ne travaillent plus mais qui, chaque fin du mois, se pointent à la banque. Pour essayer de vérifier tout ça, ils ont instauré un système de fiche de présence exceptionnelle qui doit être visé par les responsables et renvoyé au ministère de chaque structure pour signature par le secrétaire général. Et ce n'est qu'après cette signature que vous pourrez aller dans les sites qu'ils ont installés pour retirer votre bon de caisse et puis les banques sont représentées si vous devez aux banques. Pour leur donner un coupon et ils saisissent, soit ils valident.
D'un point de vue pratique, est-ce que cela vous semble possible et réalisable?
On nous demande un peu trop parce que hormis, l'attestation de présence exceptionnelle peut être également munie de l'attestation de prise de service. Donc la période à laquelle vous êtes rentré dans l'administration et votre pièce d'identité. Depuis plusieurs années, nous n'avons pas cessé, l'État n'a pas cessé de nous faire remplir ce genre de documents. Il y a quelques mois, ça a été fait. Ils ont, disons, engrangé plus de 400 millions. Seulement, on ne sait pas où va cet argent par la suite.
Le gouvernement a-t-il besoin de ce recensement?
Je pense que si on avait chez nous une administration organisée, on n'avait pas besoin de ça parce qu'il y a la fonction publique. Il y a dans chaque département ministériel un département de ressources humaines. Tel, dans 2 ans, il va être retraité. Tel est déjà retraité et puis avoir un fichier. Donc on n'avait pas besoin de faire balader le travailleur gabonais pour un soi-disant recensement que chaque administration aurait pu faire en toute quiétude.
Alors selon vous, quelle autre solution? Est-ce qu'il y a peut-être une défaillance pour qu'on puisse venir quand même à ce système de bons de caisse?
Effectivement, il y a une défaillance. Le système est malade dans ce pays. Il y a beaucoup qui se disent fonctionnaires alors qu'ils ne sont pas. Il y a beaucoup de personnes décédées mais dont les salaires continuent à passer. Il y a également ceux qui ont des doubles salaires. Donc ça leur a permis, ça permet au gouvernement de regarder tout ça. Et puis il y a eu une bonne enveloppe qui est revenue à l'État. Comme hier, on était reçu par le ministre de l'État de la Communication. Nous avons posé la question de savoir où va cet argent. Mais malheureusement, bon, c'est resté en suspension. Hein.
C'était Jean-Olivier Makaya, président du CIPROCOM au Gabon.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'Afrique salue aujourd'hui l'héritage de Nelson Mandela, icône de la lutte contre l'apartheid qui aurait eu 100 ans ce 18 juillet. Irénée Ungbo a joint l'ancien ministre béninois et écrivain, le professeur Albert Tevoedjre, qui a côtoyé le héros sud-africain. Il revient ici sur l'héritage que Mandela a légué aux Africains.
C'est important pour nous aujourd'hui de commémorer de la volonté, du refus de la lâcheté. Je pense que pour les Africains et pour l'humanité, Nelson Mandela représente véritablement un monument, un repère et une chance pour les jeunes de savoir s'investir, se sacrifier.
Est-ce que le combat pour la liberté et l'égalité que Mandela a mené toute sa vie est suivi aujourd'hui non seulement dans son pays, l'Afrique du Sud, mais aussi dans toute l'Afrique?
Je ne veux pas juger, mais je suis désolé de constater que beaucoup lâchent, acceptent l'argent, acceptent la facilité, et que, véritablement, les droits de l'homme ne sont pas toujours en priorité. Or, ce qui enrichit un peuple, c'est le droit de l'homme debout. Et les Africains ont beaucoup souffert de l'esclavage, de la colonisation, de l'impérialisme, mais ne désespérons pas. Il y a quelques-uns qui nous font honneur, et donc je pense que ce n'est pas la peine de distribuer des prix. Déplorons et encourageons.
Alors, M. Tevodjré, vous qui aviez côtoyé Nelson Mandela dans vos nombreuses responsabilités au plan international, vous a-t-il inspiré à un moment donné de votre parcours?
Il m'a toujours inspiré. D'abord, son rôle dans l'éducation, l'importance qu'il a donné à l'éducation, l'importance qu'il a donné au refus de la facilité, l'importance qu'il a donné à une manière de quitter le pouvoir, de quitter le pouvoir. C'est important de surgir, agir et s'effacer pour que la génération qui vient puisse poursuivre afin de jeunes à monter sur les ponts des anciens pour voir plus loin que eux. Moi, je ne veux pas dire que moi, non, ce n'est pas intéressant, le moi. Ce qui est important, c'est que pour moi, ça a été un exemple qu'il fallait que j'aie dans la tête, dans le cœur, pour faire le peu que j'ai pu faire.
Parlons justement de la nouvelle génération. À votre avis, qu'est-ce que la jeunesse africaine doit-elle s'approprier aujourd'hui du combat de Nelson Mandela?
D'abord, l'éducation. On n'est pas libre des privilèges. On est libre parce qu'on s'est préparé à la liberté. On a refusé la facilité. Il y a d'abord ça. Ensuite, l'éducation permet d'agir, de mieux faire. Pas donner du plateau aux femmes parce que c'est les femmes. Point non. Donner aux femmes qui méritent. Et donc, les leur apprendre à mériter. C'est important. Première chose. Deuxième chose, savoir que ce n'est pas l'argent qui fait le bonheur, mais c'est le bonheur du peuple qui fait la joie de l'homme. C'est important. Je dois dire, le gouvernement de la Cour de France, Maduro dit bien que les Africains ont gagné la Cour de France. C'est bon. Dans tous les domaines, nous devons montrer cet exemple-là. Il y a des Africains qui sont des scientifiques, il y en a qui sont des sportifs, il y en a qui brillent dans d'autres domaines. Nous pouvons briller autant que les autres.
C'était le professeur Albert Tevodjré. Il était joint à Porto Novo. C'est la fin de cette édition. À la mise en onde, cet échec, Thierrot, à la présentation, Nathalie Barge. Restons en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site internet voafrique.com pour l'actualité en continu. Très bonne soirée à tous.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Washington, la voix de l'Amérique. Voici un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis.
Les États-Unis condamnent l'arrestation d'au moins 29 manifestants iraniens pour avoir exercé leurs droits et libertés fondamentales en protestant contre le port obligatoire du hijab. La porte-parole du département d'État, Heather Nauert, dans une déclaration écrite, a souligné que les États-Unis demeurent fermes dans leur soutien à la liberté de religion, d'expression et de rassemblement pacifique. Le président Donald Trump a dit, de son côté, que le peuple iranien est la source des plus grandes craintes du gouvernement iranien. Cette peur s'est encore affichée dans la réaction du régime vis-à-vis des femmes protestant contre le port obligatoire du hijab. Des images et vidéos des femmes iraniennes sans voile, agitant leur hijab, se sont propagées à travers les médias sociaux. Certains hommes et des femmes voilées ont également protesté contre l'imposition du hijab. Ils ont été motivés et inspirés par l'action d'une jeune iranienne qui était debout sur une caisse en bordure de la rue de la Révolution à Téhéran avant le début des manifestations massives contre le gouvernement à la fin de décembre. La lutte contre l'imposition du hijab n'a rien à voir avec la question question de savoir si le hijab est bon ou mauvais. C'est une question de choix, d'égalité, a écrit sur les médias sociaux Omid Bemarian, une journaliste basée aux États-Unis qui a été une fois emprisonnée en Iran. Ainsi que l'a relevé le rapport 2016 du département d'État sur les droits humains, la marche des femmes iraniennes est limitée dans tous les domaines de la société. Non seulement elles doivent obligatoirement porter le hijab, mais leur témoignage en justice vaut la moitié de celui d'un homme. Elles ne peuvent pas transmettre leur nationalité à leurs enfants ou leurs époux étrangers. Des restrictions sociales et légales limitent leurs opportunités éducatives et professionnelles et elles sont punies de manière disproportionnée pour certains crimes. Les femmes en Iran méritent mieux. Elles méritent de se voir accorder leurs droits fondamentaux, ainsi que soulignent les manifestations contre le port obligatoire du hijab. Ainsi que l'a dit la porte-parole du département d'État, Nawaz, les gens doivent être libres de porter les vêtements de leur choix et pratiquer la religion qu'ils désirent. Priver les individus de ce choix sape leur autonomie et leur dignité.
C'était un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis. Washington, la voix de l'Amérique.